C'est l'heure de notre invité cette semaine, Audrey, on reçoit Claude Ananou.
Oui Philippe, Claude Ananou, maître d'enseignement à HEC Montréal, il est spécialiste en création d'entreprise et en management des PME.
Claude Ananou, bonjour.
Bonjour Philippe.
Alors vous avez un CV qu'on peut consulter en plusieurs tomes, sur plusieurs jours, bien complet.
C'est ça, mais on peut le rétrécir aussi.
On peut le rétrécir, mais on ne peut pas le faire ici. En tout cas, entre autres choses, allez, simplifions quand même. Serial entrepreneur, professeur, auteur, il y en a d'autres. Mais vous avez aussi, et ça nous a attiré ici à Célèbdo, vous avez lancé une initiative un peu folle il y a quelques années, un camp d'été d'un genre un peu particulier. Ça s'appelle justement Folie entrepreneuriale. Ça s'adresse aux jeunes de 7 à 17 ans. Et en gros, vous qui êtes professeur à HEC, vous êtes associé à Polytechnique, une école d'ingénieurs donc, pour créer un mixte entre l'initiation à l'entrepreneuriat et l'initiation à la science. Alors, entre deux épisodes de Bob le bricoleur, entrepreneur scientifique, ça s'apprend très tôt, c'est ça?
Alors, en fait, c'était un petit peu plus que le côté au niveau avec Polytechnique, parce qu'il y avait déjà Polytechnique, qui eux sont là pour initier
depuis
les jeunes.
Depuis les années 90. Hein.
Voilà, et ce qui est un très grand succès, même ça dure durant toute l'année, ils approchent à peu près 20 000 jeunes par an. Et on a utilisé, nous, Folie entrepreneuriale pour deux raisons, parce qu'il y avait Folie technique, donc on s'associait avec eux, et aussi pour être un petit peu entrepreneur, il faut être un peu fou, donc ça associait très bien le mot folie. Alors, c'était pas simplement d'orienter les jeunes vers le côté scientifique, c'était de développer leur côté un petit peu esprit entrepreneurial.
Pourquoi si tôt ?
Alors, si tôt, ça c'est de mon expérience de terrain, en tant qu'enseignant, au niveau universitaire, on a des programmes à HEC donc en entrepreneuriat, et je dis souvent, c'est trop tard. Parce que l'étudiant qui arrive déjà à HEC, il veut son diplôme, il est déjà dans un esprit de diplomation, et ça, c'est très difficile pour nous à le sortir un petit peu de cette orientation. Comme j'aime dire à mes étudiants, vous savez Zuckerberg qui était à Harvard en première année, il est parti en Californie à la fin de sa première année, ça a dû être le côté dramatique de ses parents, de dire notre enfant qui est à Harvard s'en va et finit même pas ses études. Alors, on a pensé un moment au cégep, et puis même là, j'ai dit, ah, cégep, déjà, ils ont pris une orientation, leur choix de concentration dans leur cours. J'ai dit, il faut prendre les jeunes, au secondaire 4 et secondaire 5. Ils se cherchent à 15, 14, 15, 16, 17 ans, suivant les âges. Ils se cherchent, et c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on leur mette cette petite graine entrepreneuriale en eux pour qu'elle puisse germer.
Ok, c'est intéressant parce que vous commencez, monsieur Ananou, à être très connu effectivement sur l'insistance que vous apportez sur l'esprit d'entreprendre. Donc, ce que vous êtes en train de dire finalement, c'est que ça s'apprend plus jeune que pendant un MBA. Et on parle beaucoup d'entrepreneuriat en ce moment. Ça semble être une compétence de base dans le fond. Est-ce que ça serait une source d'inégalité pour l'économie d'aujourd'hui?
En fait, c'est un petit peu dans l'esprit qu'on enseigne, c'est de donner des soft skills. Alors, c'est sûr qu'à 14, 15, 17 ans, là, je ne vais pas leur expliquer du management, du marketing, de la finance.
Ils n'en est pas à ce niveau-là.
Ben voilà.
Encore.
Mais c'est de leur donner ce fameux esprit. Et j'aime dire, même parce que les parents m'appellent et tout, je dis, regardez, peut-être vous espérez que votre fils sera peut-être un futur avocat. Ben, il montera son bureau d'avocat. Il sera peut-être pharmacien, il aura une pharmacie. Il sera ingénieur, il va monter un bureau d'études d'ingénieur. Donc, c'est tout côté, peu importe les études qu'il va faire après, il aura cet esprit d'être un petit peu entrepreneur dans son métier, entre guillemets.
Mais il se caractérise par quoi cet esprit? Je suis curieux de savoir.
Alors cet esprit, je veux dire, c'est plutôt des soft skills. Et comme je dis, ça n'a rien à voir un petit peu avec la gestion. Alors naturellement, on a le premier élément, c'est de bien se sentir dans sa peau, avoir confiance en soi.
D'accord.
Un entrepreneur.
Pas trop quand même, pas trop.
Je veux dire, moi je suis pour avoir un gros ego en entrepreneur.
D'accord.
Je
ne
connais pas d'entrepreneur.
Faut s'assumer en gros,
c'est ça.
D'accord.
Mais un ego positif, d'accord? Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, les autres n'auront pas confiance en vous. Alors ça, allons-y. Et souvent à cet âge-là, ils sont un petit peu refermés. Je veux dire, le premier matin et tout, je panique toujours parce qu'ils ne se connaissent pas, ils sont une vingtaine, ça se regarde, ça n'ose pas parler. À la fin, comme ils me disent, on est les meilleurs amis qu'on a jamais eu dans la vie en 15 jours. Et je vais vous donner quelques exemples, ils osent faire des choses.
Donc confiance, ça serait le premier. Deuxième, confiance. On va dire.
Alors une fois qu'on a un peu confiance, on peut oser. Hein? Comme l'Auto-Québec le dit, tous nos gagnants ont acheté un billet. Alors comme j'en dis, si vous ne faites pas un premier geste, ben, y a rien qui vous arrivera ou quoi. Donc de ce côté, d'oser faire des choses qu'on veut faire. Et c'est un petit pas des fois qui est un petit peu difficile, surtout à cet âge. Après, il y a un petit peu le côté, alors là, on ne rentre pas en management, mais vendre. Hein. Un entrepreneur doit effectivement savoir vendre ses idées, savoir une forme de leadership un petit peu, de savoir vendre sa personnalité, son projet et tout. Alors avec ces trois choses-là, on a fait carrément nous des exercices concrets qu'ils font pendant les 15 jours.
Qui les mettent en évidence voilà. Finalement.
Et on a un quatrième élément très important, c'est effectivement de voir d'autres entrepreneurs, des modèles. Et ça, c'est important, les modèles. Et comme je dis, un modèle, c'est pas pour le copier. C'est pour dire, ah, bah, tiens, telle partie de cette personne-là, là, ça me ressemble. Ou au contraire, je veux pas du tout être comme ça.
Mais vous parlez des élèves du cégep, finalement, quand on parlait
de... Même pas du cégep, du secondaire.
En tout cas, du secondaire, pardon. Et quand on parlait de folie entrepreneuriale, mais on note aussi depuis plusieurs années, ça fait même depuis le début des années 2000, là, qu'à l'école, on sensibilise à l'entrepreneuriat. Justement, on a tendance à penser que, comme pour les scientifiques qui apprennent la science, pour apprendre l'entrepreneuriat, il faudrait des entrepreneurs. Est-ce que les enseignants, finalement, ceux qui apprennent, qui sensibilisent à l'entrepreneuriat, sont suffisamment armés, sensibilisés eux-mêmes pour transmettre ça, à votre avis ?
Alors, ça, c'est toujours le même problème. Je veux dire, ma femme a été dans l'enseignement comme ça, secondaire, puis à un moment, elle s'est retrouvée à donner les cours d'art. Bon, elle avait... pas spécialement des
pire,
aptitudes.
Hein, pire, voilà.
Mais de plus en plus, dans toutes les écoles primaires et secondaires au Québec, il y a d'abord un concours, à chaque fois, annuel, qui se fait, où les jeunes vont faire un projet. D'accord ? Alors vous avez souvent, et puis j'ai certains comme ça, enseignants qui m'appellent pour venir un petit peu communiquer avec eux. Donc vous retrouvez souvent dans une école, ça peut être l'autre fois j'étais à Sorel et c'était le prof d'éducation physique qui pour lui l'entrepreneuriat l'intéressait.
C'est naturel.
Et donc c'était lui qui donnait l'initiation entrepreneuriale pour vous dire. Alors il n'y avait pas une formation spécialement ni d'entrepreneur ni de gestionnaire, de manager ou quoi que ce soit, mais ça l'intéressait. La preuve, il m'appelait pour venir faire une petite conférence auprès de ses étudiants. Alors ça se fait à travers tout le Québec. Et de plus en plus, vous avez un programme en France que j'essaye un petit peu d'implanter ici, qui se fait un petit peu, c'est de faire venir au moins une fois ou deux par an des entrepreneurs qui viennent dans l'école et puis on fait une petite conférence d'une heure où ils peuvent voir ce que c'est un entrepreneur avec la personnalité
et l'expérience évidemment voilà. Qu'il a.
Alors, on vient de parler du soft, parlons du hard, les STEAM, les fameuses compétences en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. On en parlait la semaine dernière ici à Célébdo, oui. Et on a croisé quelques statistiques. Les filles sont absentes, c'est assez notable, oui. Ça s'améliore, mais très lentement. Puis c'est vrai aussi dans l'entrepreneuriat, maintenant on commence à converger vers une parité. Mais dans les STEAM, ça a l'air d'être beaucoup plus lent. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Alors, au niveau scientifique, bon, c'est moins mon domaine, mais effectivement, on a des fois des problèmes d'arriver à recruter un petit peu des jeunes filles ou quoi que ce soit en sciences. Je voyais une émission aussi, je crois que c'est hier ou avant-hier, là, au niveau même des pilotes d'avions, ils n'arrivent pas à avoir des pilotes femmes, pour vous dire. Donc, il reste des secteurs comme ça, un petit peu, où les filles ont un peu plus de mal à se motiver à aller dans ces secteurs-là. Au niveau de l'entrepreneuriat, moi, j'ai vu l'évolution en 20 ans. Il y a 20 ans, j'avais 10% de filles dans mes classes. Aujourd'hui, j'ai 70%. Donc l'entrepreneuriat...
Ah ouais, 70%.
Ah, carrément.
D'accord.
J'ai beaucoup plus de filles dans mes cours d'entrepreneuriat que de garçons maintenant. Alors ça, c'est intéressant. Je parle au niveau même des jeunes. Et par contre, ça ne va pas être les mêmes projets. Il reste encore... Alors effectivement, les gars vont être un petit peu plus dans le milieu scientifique, technologique ou quoi que ce soit. On retrouve aussi des jeunes filles. Mais suivant les secteurs, on va voir qu'effectivement, ça se féminise plus ou un petit peu plus au niveau des gars.
Alors Claude Anaou, il y a un terme qui revient souvent quand on parle de science, aussi bien que d'entrepreneuriat, c'est le terme de création. Et si on pousse un peu, il y a un autre terme qui arrive très vite, c'est celui d'imagination. Le scientifique d'ailleurs, Pierre-Gilles Degenne, en parlait souvent en parlant des scientifiques. L'imagination, on peut dire que les enfants, certains jeunes, en développent bien plus que certains adultes. Est-ce que ces jeunes que vous rencontrez sur le terrain, c'est une source d'inspiration pour vous et éventuellement pour les entreprises, est-ce que les jeunes peuvent les aider à être plus créatifs ?
Alors, il y a eu des études qui ont été faites à ce niveau-là. Des jeunes de moins de 5 ans, on va dire que 98% d'un jeune est un petit peu créatif par nature. L'être humain est créatif par nature. Vous demandez à un enfant, je fais l'exercice en classe, moi, dessinez-moi une maison. Je prends des enfants de 5 ans, ils vont me faire une maison dans un arbre, avec des ballons, en l'air ou quoi que ce soit. Quand je leur demande le même exercice à mes étudiants d'HEC, ils me font tous la fameuse maison avec le toit à 45 degrés, la cheminée, bon. Et j'y voilà. Alors donc l'étude a prouvé qu'à 5 ans, 98% des jeunes sont effectivement très créatifs. À l'âge de 10-12 ans, il en reste à peu près que 15-20%. Et à l'âge de 20 ans, il en reste plus que 2%.
Ouais, c'est
donc c'est la société, comme je dis à mes étudiants, je ne vais pas vous rendre plus créatif, je vais essayer de vous ramener à ce que vous étiez créatif au début de votre vie et de garder ce que vous aviez et non pas de le perdre doucement.
La substantifique moelle.
Voilà, donc on peut retrouver un petit peu notre côté créatif de jeunesse et c'est ça la beauté d'être entrepreneur, hein. C'est d'être un peu farfelu, de sortir des zones de confort, de voir les choses sous un autre angle, comme je dis souvent, c'est une question d'angle de vue, de voir la chose autrement. Et je vais vous faire l'exercice, Philippe. Si je vous dis la moitié de 8, vous me répondez quoi?
Ah, évidemment, 4.
Voilà, mais si je vous pose encore la question, la moitié de 8, parce que ça, tout le monde va me le dire 4, et je ne vous engage pas sur un 4, ça pourrait être quoi?
La moitié de 8 par rapport à 4, la moitié de 8, bah Audrey, alors bah, tiens, qui rigole, je ne suis pas le seul à être mis en
voyez
situation.
Voyez mon côté professeur tout de suite. Et bah c'est 0 aussi.
C'est 0.
Eh oui, mais c'est HU aussi, et c'est IT,
ah, oui.
Et c'est W, et c'est E. Ça, je pourrais vous en dire des dizaines.
Bon, on va essayer de se parler juste après, Claude Ananou. Audrey, on enchaîne.
Je vais parler science, si vous voulez bien, et après...
Vous me parlez science, je vous parle de mathématiques. Hein. Audrey nous a parlé de mathématiques.
Entrepreneuriat scientifique. Claude, vous savez, bon, en fait, l'économie devient tout est tech, et puis la concurrence devient assez accrue. C'est difficile aujourd'hui de créer de la valeur. L'entrepreneuriat scientifique et technologique, on compte beaucoup là-dessus. On parle beaucoup d'entrepreneuriat au Québec. Il y a eu un beau rattrapage, un beau dynamisme, des belles intentions. Enfin, il y a quelque chose d'assez notable en ce moment qui se passe, et c'est très bien, mais entrepreneuriat scientifique... C'est moins visible. Et évidemment, nous, on s'intéresse à la valorisation des talents scientifiques et techniques. Comment ça se passe, entrepreneuriat scientifique au Québec? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il nous manque 2-3 mesures?
Alors, 2 choses. La première, c'est qu'en tant que personne qui essaye de motiver l'entrepreneuriat, des fois, j'étais un petit peu fatigué où on parle souvent que d'applications en technologie ou quoi que ce soit. Mmh. Et puis, là, depuis à peu près 6 mois, il m'est arrivé une demande de l'Université de Montréal de dire « Nous avons des doctorants ». En biochimie, en nano, machin, même des termes des fois que j'ai du mal à maîtriser. Et tous ces doctorants et post-doctorants, effectivement, qui sont dans la recherche pure. Voilà. Ils sont dans la recherche pure. On m'a dit, monsieur Ananou, on a peut-être besoin de vous pour les stimuler aussi de voir peut-être leur avenir sous la façon entrepreneuriale. À peu près que 17% des doctorants se trouvent à un poste de professeur, donc il en reste 83 sur le marché. Bon, il y a certaines entreprises qui récupèrent certains doctorants, mais ces gens-là, qui ont souvent fait des études pendant au moins une dizaine d'années, qui sont vraiment dans un sillon, il faudrait peut-être les motiver effectivement à avoir une porte entrepreneuriale et voir, c'est vrai, souvent un doctorant va avoir une recherche très très poussée qui peut se matérialiser à répondre à un besoin et de voir ça. Et on a fait notre première formation de 2 jours et là l'université même de Montréal est en train de voir si on pourrait pas pérenniser. Ouais, c'est la faculté des études supérieures là qui est en train d'envisager ça et c'est tout neuf. Quand je dis tout neuf, c'est très nouveau. Les gens n'avaient pas pensé à ça.
Mais est-ce que c'est une question juste d'esprit entrepreneurial, de gens trop scientifiques et puis il en manquerait
C'est ça. Tout à l'heure, on parlait de d'angle de vue, de voir. Alors, ces gens-là ont des super œillères, pour ne pas dire, comme je dis, là, une thèse de doctorat sur les mouches tsetse du Gabon.
Salutations à tous les docteurs qui nous écoutent, voilà, évidemment.
C'est vrai, quand vous êtes aussi, depuis 5 ans que vous faites votre doctorat sur ça, c'est très difficile d'avoir un petit peu...
De sortir du
spectre, de sortir de sa zone de confort, mais en plus de ses connaissances. Et quand je vous dis la moitié de 8, eux, ces gens-là, c'est sûr qu'ils ne voient qu'une solution. Et puis là, ils ne sortent pas de ça. Et c'est un moment de leur ouvrir un peu les œillères et de leur montrer que, en fait, des grands scientifiques ont monté leur boîte en pharmaceutique, dans différents domaines ou quoi que ce soit.
Et à part le PhD en soi, la culture entrepreneuriale de l'institution, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Je pense notamment à toutes ces pratiques de propriété intellectuelle et liens entre l'institution universitaire et le milieu des affaires.
Alors de plus en plus, et ça aussi je suis en train de m'impliquer un petit peu dans ce domaine-là, de plus en plus vous allez avoir les universités qui ont des centres de valorisation de la recherche qui est faite au niveau des universités. Le problème qu'il y a souvent...
On pense à DMZ en Ontario, District 3 ici à Concordia.
J'avais visité à Grenoble comme ça, une bonne institution, parce que bien souvent entre le milieu universitaire et le milieu des affaires, il y a un gap, il y a un fossé tellement large qu'ils ne peuvent pas se parler.
Alors justement, on parle des projets Claude Ananou. Vous êtes quand même aussi connu pour remettre en question des tabous en matière d'entrepreneuriat. On pense en particulier...
Et j'ai été entrepreneur.
Bah oui, c'est voilà. Ça. Et vous dites en gros, le plan d'affaires, par exemple, on n'en a pas forcément besoin quand on part en affaires. Un scientifique qui veut commercialiser son innovation, justement, c'est quoi qu'il doit privilégier avant tout? S'il n'a pas de plan d'affaires, s'il n'a pas de plan de match, s'il n'a pas éventuellement d'études de marché, comment il fait?
Alors, pour le faire un petit peu plus simple, sans ça, il faudrait qu'on vous donne un cours et puis vous pourriez aller sur notre MOOC d'HEC Allez. Montréal où vous avez 37 capsules à ce niveau-là. Avant toute chose, ce n'est pas la découverte en soi qui est importante. C'est est-ce qu'elle correspond à un besoin? D'accord. Alors, c'est ça qui va être peut-être le plus difficile pour ce chercheur-là, qui est un chercheur qui a trouvé quelque chose, puis là, qui doit l'adapter à quelqu'un ou à des besoins d'une certaine population. Dans mon approche qui s'appelle SINOP, on fait l'inverse, nous. On regarde plutôt les besoins et on adapte notre solution. Et c'est là le problème des scientifiques, c'est qu'ils ont vraiment figé, sclérosé leur solution, et puis là, maintenant, il faut qu'on la trouve. Et bien souvent, ils ne sont pas capables un petit peu d'adapter même leur solution, parce qu'ils ont tellement travaillé dessus, qu'ils sont obligés de dire, c'est ça qui passe ou ça ne passe pas. Bon. Et ça, c'est le problème avec les scientifiques un petit peu qu'on a. Et comme j'aime dire, je préfère avoir une personne qui n'a pas d'idée et qui vient dans un de mes cours, que quelqu'un qui a déjà une idée bien précise et bien définie et qui ne veut pas en sortir. Et puis là, c'est plus difficile pour lui à trouver une clientèle ou un marché. Donc, on crée un marché, on n'en a pas un marché, on crée le marché.
Merci Claude Ananou. Je rappelle, vous êtes maître d'enseignement au département de management d'HEC Canada, entrepreneur, co-auteur de l'ouvrage célèbre « Réussir sa création d'entreprise sans business plan » paru aux éditions Erol.
Merci Philippe.
Merci.